Qui est maintenant un point de prévention de la maladie d'Alzheimer, la nutrition, qui est encore très souvent négligée, est pourtant l'un des piliers de la prévention du déclin cognitif. Nous allons en parler maintenant avec David Godou, qui est cofondateur d'Active Inside, société qui propose des actifs végétaux destinés à la nutrition santé.
Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie effectivement la Fondation Recherche Alzheimer. En ma société, on est une start-up qui est basée à côté de Bordeaux. Et effectivement, on investit énormément en recherche. Et c'est pour ça en fait, qu'on supporte depuis des années, en tout cas on apporte notre petite pierre à la Fondation Recherche Alzheimer, parce qu'à la fin, effectivement, il faudra qu'on trouve un traitement pour vaincre cette maladie. Alors là, aujourd'hui, je vais effectivement aborder le sujet plutôt de la prévention. Donc un angle qui est un petit peu différent d'un traitement, mais qui est quand même important finalement. Alors, là, vous avez en fait un schéma qui reprend un peu les facteurs de risque qui ont été décrits et largement depuis pas mal d'années. Les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, il y en a qui vont avoir un effet plutôt positif. Le fait, par exemple, de faire des études quand on est jeune, on a tendance effectivement à limiter la prévalence de cette maladie. En revanche, si effectivement on a une hypertension aux alentours de 40 ans qui n'est pas traitée, on va augmenter les risques. L'obésité est un facteur de risque également. Le stress, les problèmes de sommeil, comme on l'a évoqué préalablement. On sait qu'également le manque d'activité physique est un facteur de risque qui va effectivement augmenter cette maladie-là. Le premier facteur de risque étant bien entendu l'âge. Ceci dit, quand on parle de facteurs de risque, et notamment des facteurs hors de la génétique, c'est-à-dire qu'on peut mettre aussi en place des stratégies de prévention. Et je rappelle ce chiffre-là, qui sort d'une étude qui a été publiée en 2007, donc c'est un peu moins de 20 ans. Si on était capable de retarder de 5 ans l'apparition des symptômes de déclin cognitif, ça permettrait de diminuer de moitié le nombre de malades atteints de démence et le nombre de malades d'Alzheimer. Dans ce cadre-là, plusieurs personnes l'ont évoqué tout à l'heure dans la salle, l'activité physique, c'est important. Je repense à une intervention il y a, je crois, 2-3 ans maintenant, d'une association qui est dans la région parisienne, qui fait en fait intervenir des malades d'Alzheimer et les aidants autour de tables de ping-pong. Il faut savoir que le ping-pong, c'est un sport qui a le mérite non seulement effectivement d'être joué à deux, donc ça permet notamment à l'aidant et à l'aidé de pouvoir jouer ensemble, mais ça permet aussi à la personne atteinte de cette maladie de pouvoir effectivement avoir une activité avec autrui. C'est quelque chose qui a été assez remarquable. Je vous invite à regarder un peu sur Internet. Il y a pas mal de choses qui sont décrites, il y a des petits films aussi, sur l'utilisation du ping-pong dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Il y a bien entendu les interactions sociales, comme je l'évoquais avec le ping-pong à l'instant, l'activité intellectuelle, et puis il y a également l'alimentation. Cet après-midi, je vais surtout vous parler d'alimentation, puisque c'est le domaine de notre expertise. Le régime méditerranéen, alors je sais qu'ici on est un peu loin de la Méditerranée, mais je suis sûr que certains ont un régime méditerranéen, fait la part belle aux fruits et aux légumes, fait la part belle aussi à tout ce qui va concerner les poissons et à comprendre pourquoi il y a un intérêt, et par contre la part un peu moins belle à tout ce qui va être la charcuterie, le sucre, etc. Il faut savoir que ces études-là, on a un recul quand même qui est assez important. Alors, on ne parle pas d'études d'intervention, on parle vraiment d'études observationnelles sur un peu plus de 34 000 personnes. On s'est rendu compte qu'effectivement, plus les gens adhéraient à un régime de type méditerranéen, c'est-à-dire notamment riche en fruits et en légumes, plus on constatait qu'il y avait une diminution du risque de la maladie d'Alzheimer, on parle de 40% à peu près. Il y a aussi des corrélations, c'est intéressant à voir, sur les maladies cardiovasculaires. On sait que ce sont des éléments qui sont importants. Le professeur tout à l'heure l'évoquait, un cerveau bien irrigué, c'est quand même quelque chose qui est important pour la suite. Vous avez également un autre type de régime qu'on appelle le DASH Diet, qui a été développé aux États-Unis, qui consiste essentiellement en fait à utiliser, bien sûr, à consommer des fruits et des légumes, mais également à limiter l'apport de sel. Il faut savoir que les pouvoirs publics ont bien pris conscience que l'apport de sel, qui joue un rôle notamment sur l'hypertension, j'évoquais tout à l'heure les problèmes d'hypertension aux alentours de 40 ans qui n'étaient pas soignés, qui étaient un véritable facteur risque pour la démence et en particulier la maladie d'Alzheimer. Donc cette alimentation pauvre en sodium, associée donc avec des fruits et légumes, avec un peu plus aussi de céréales qu'on va retrouver dans le régime méditerranéen, a permis également de montrer qu'il y avait également une diminution du risque qui est quasiment le même que le régime méditerranéen, aux alentours de 40%. Donc vous voyez, on parle quand même d'études épidémiaux. Et puis vous avez un autre type de régime qu'on appelle le Mind Diet, qui est tout simplement une espèce de combo entre le DASH Diet et le régime méditerranéen. Là, ce sont des études d'intervention sur des populations, vous voyez, un peu moins de 1000 participants, mais qui ont pu montrer également qu'il y avait un intérêt sur le déclin cognitif, normal, pathologique aussi. Alors, quand on dit ça, finalement, on se dit, ok, beaucoup de fruits et de légumes, boire de l'eau, ça paraît bête, mais boire de l'eau, c'est important. Souvent, les gens ne consomment pas suffisamment d'eau. Qu'est-ce que ça va apporter, ce type de régime ? Les antioxydants, en fait, naturellement, nos corps ont tendance à rouiller, à s'oxyder. Et notre alimentation, en fait, peut apporter un certain nombre d'antioxydants intéressants, en particulier les polyphénols. Alors, c'est quoi les polyphénols ? Vous en mangez tous les jours, peut-être que vous ne le savez pas. Mais ce sont des molécules qu'on va retrouver uniquement dans le règne végétal. Donc c'est pour ça que ce sont des phytonutriments. Il y a à peu près 8000 molécules qui ont été identifiées, avec des poids, des tailles différentes. Elles n'ont pas toutes la même activité, elles n'ont pas toutes la même biodisponibilité. Certains vont jouer par exemple sur le microbiote, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. On sait que ça a un rôle important sur ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, et sur lequel, parmi mes équipes, et notamment les équipes de chercheurs, notamment à l'étranger, nous travaillons. Vous avez également des vitamines, notamment des vitamines liposolubles comme la vitamine E, la vitamine C qui est une vitamine hydrosoluble, les caroténoïdes. Alors, les caroténoïdes, comme son nom l'indique, hein, dans la carotte, le carotène, c'est orange. Vous allez retrouver pour autant ces carotènes dans du brocoli, qui est vraiment intéressant. La vitamine D, plutôt notamment dans certains produits laitiers et dans les poissons. Les oméga-3, je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est effectivement un constituant essentiel, notamment au niveau cérébral, et que l'on va retrouver notamment dans le régime méditerranéen. Tout ce qui concerne les vitamines B, qu'on va plutôt retrouver dans des légumes à feuilles, je pense aux épinards ou ce genre de produits. Donc, une fois que je vous ai dit ça, de façon très concrète, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, je vous donne un certain nombre d'aliments. On va avoir une pomme en Granny Smith, une pomme de terre. Il faut savoir que la pomme de terre, c'est l'un des premiers apports de polyphénol, alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais vu la quantité de pommes de terre que l'on consomme, on en amène énormément dans notre alimentation. Vous avez du raisin blanc, du beurre. Bon, je pense qu'on est dans une région, moi je viens de Bordeaux, on en consomme un peu moins, mais le beurre, ça reste quand même un aliment important. Il faut toujours se faire plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger ces aliments, bien au contraire. En revanche, tout simplement, en modifiant le type d'aliment, on peut augmenter cette fameuse densité neuronutritionnelle. Comment ? Si je prends l'exemple de la pomme, prendre une Red Gala, il faut savoir que la concentration en polyphénol, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle peut être d'un facteur 1 à 10. Donc tout simplement, le fait d'avoir un produit qui est un peu plus coloré, c'est la meilleure façon pour vous, de façon très simple, d'augmenter cette densité neuronutritionnelle. Si vous faites une purée de pommes de terre, pas de problème, mais prenez de la patate douce, tout à l'heure j'évoquais du brocoli, ça va permettre tout simplement, pour la même quantité de calories que vous allez apporter dans votre alimentation, d'augmenter le nombre de neuronutriments qui auront un effet bénéfique pour votre cerveau. Je parlais du raisin, privilégiez clairement le raisin rouge. Cette couleur, ce sont des polyphénols dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça va pas changer beaucoup le goût, un petit peu, mais sincèrement, privilégiez ça. Alors, le beurre, je reviens pas dessus. L'huile d'olive, et en particulier en fait, ce qu'il y a dans l'huile d'olive, à nouveau, il y a des polyphénols vraiment d'intérêt, que ce soit au niveau cardiovasculaire, on parlait notamment de l'oxydation des LDL ou ce genre de choses, qui ont fait largement leur preuve. Alors, une fois que je vous ai dit ça, juste pour vous toucher un petit peu un mot au niveau de la recherche. Dans ma société, on a monté un programme de recherche, notamment avec l'Université de Bordeaux, donc qui associe deux laboratoires académiques, Nutrineuro, qui est en fait ce qu'on appelle une unité mixte de recherche, INRAE, Université de Bordeaux, et BPH, qui est en fait une UMR, INSERM, Université de Bordeaux, plutôt sur la partie épidémiologie, et Nutrineuro plutôt sur la partie préclinique. Et dans ce cadre-là, en fait, c'est un programme qui fait un peu plus de 16 millions d'euros. Notre objectif, c'est de pouvoir travailler sur la prévention du déclin cognitif normal et pathologique. Alors, la genèse du projet, pour que vous compreniez un peu d'où on vient. En 2007, tout à l'heure j'évoquais le fait de pouvoir retarder de 5 ans l'apparition des symptômes, permettait de diminuer de moitié la prévalence de ce type de maladie. Il y a eu cette publication où Le Teneur et ses collègues là, de l'INSERM ont montré qu'effectivement, un régime plutôt riche en polyphénol avait tendance, effectivement, sur des personnes normales, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déclin pathologique. Là, on parle d'un déclin normal. On voyait qu'effectivement, il y avait un déclin qui était moindre. Suite à ça, on a monté un premier programme de recherche franco-canadien qui a démarré en 2011, enfin 2010-2011, qui a duré 5 ans, donc avec une dizaine de partenaires académiques et industriels, qui a fait l'objet d'énormes, enfin de nombreuses études. Donc on a fait d'abord des études précliniques pour voir un peu comment ça se passait au niveau cérébral, sélectionner notamment un certain nombre de polyphénols. Ces travaux ont été repris dans une revue qui est assez connue, qui s'appelle JAMA, et pour lequel on a également publié des résultats d'une de nos études cliniques, donc qui était en double aveugle, placebo versus un actif, sur des personnes saines, c'était sur 215 personnes pour être précis, où on a montré qu'effectivement, des gens, et j'insiste, qui n'étaient pas malades, qui avaient en moyenne 65 ans. À 65 ans, vous pouvez avoir un âge cognitif de quelqu'un qui en a 55. C'est comme si vous courez le 100 mètres en moins de 10 secondes. Là, vous n'allez rien améliorer. Ça marche très bien, tout se passe bien. Vous pouvez avoir 65 ans et avoir un âge cognitif de quelqu'un qui en a 75. En l'espace de 6 mois versus le placebo, on a pu montrer qu'on revenait à cet âge de 65 ans. Suite à ça, en fait, à la fin de ce programme de recherche, je suis retourné voir les gens de l'INSERM de Bordeaux, et là, je leur ai posé la question suivante en leur disant, écoutez, en 2007, vous aviez publié le fait que, sur des personnes qui étaient saines, le fait de consommer notamment des régimes plutôt riches en polyphénol permettait de limiter ce déclin cognitif, en tout cas la vitesse de ce déclin. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passerait sur des personnes, cette fois-ci, qui sont atteintes de démence? Est-ce qu'on pourrait avoir ce recul, notamment sur cette consommation de polyphénol et la démence? Donc ça fait l'objet d'une publication, donc ça c'est avec l'équipe de Cécilia Samieri là, de l'ISPED, où on a pu voir effectivement faire un suivi sur une douzaine d'années, et on a montré qu'effectivement en fonction de l'apport d'un certain pool de polyphénol, donc amené par différents aliments, il y avait effectivement une corrélation où la fréquence des démences était moitié moindre. Donc c'est ça qui nous a permis, sur la base de tous ces travaux, de lancer le programme de recherche dont je vous ai parlé. Donc l'ambition de ce projet, c'est effectivement de jouer sur le déclin cognitif normal, j'insiste, ça c'est quand même important, et pathologique, donc le plus tôt, le mieux. Et dans cette approche-là, nous avons deux types d'approches, des solutions digitales, notamment pour aider au coaching nutritionnel, savoir comment choisir, comme je vous ai montré de façon assez simple, les aliments, mais de façon un peu plus poussée, et puis également de développer d'autres ingrédients, et des aliments à ce qu'on appelle la HDNN, tout ça dans une logique d'alimentation à haute densité neuronutritionnelle. Voilà, je pense que j'ai terminé. J'ai tenu le temps. Je vous remercie.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour M. Godou? Vous avez évoqué une solution digitale. Est-ce qu'il y a un site internet en accès libre pour tout le monde qui répertorie les conseils de nutrition?
Non, mais ceci dit, je pense que même sur la Fondation Recherche Alzheimer, il y a un certain nombre de conseils qui sont donnés. Après, il y a des associations aussi qui vont effectivement privilégier ou du moins donner des conseils sur cela. Il y a également, je pense, dans certains EHPAD, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les EHPAD. Malheureusement, quand les gens sont déjà en EHPAD, souvent le stade est trop avancé, mais on va travailler par exemple sur tout ce qui va concerner des produits à texture modifiée. Ça pour nous c'est important, dans lequel on peut également augmenter sa densité neuronutritionnelle. Ce sont des produits qu'on appelle notamment des mangemains, qui permettent tout simplement de reconstituer des aliments et sans, pour éviter que les gens s'étouffent, et faire en sorte qu'un malade Alzheimer qui est plus en capacité tout simplement de saisir une fourchette puisse utiliser ses mains et ne pas avoir simplement des bouillies à manger. Donc on est sur ce genre d'approche qui sont assez appréciées en tout cas par les cuisiniers, surtout par les personnes qui mangent ces produits.
Vous avez parlé du raisin rouge, vous avez parlé du régime méditerranéen, et le vin rouge alors?
Alors, le raisin rouge, alors je ne veux pas du tout, parce que je viens effectivement de Bordeaux, c'est un peu le, je ne veux pas du tout influencer la réponse, mais l'alcool quand même reste toxique pour le cerveau. Ça, il faut bien faut que les choses soient bien bien claires. Après, si voilà, on reste quand même dans un pays où l'alimentation est, on a une culture qui est importante autour de l'alimentation. Si vous avez à privilégier entre du vin blanc et du vin rouge, voilà, d'un point de vue purement apport polyphénolique, privilégiez le vin rouge. Oui. Mais bon, avec modération, ça j'insiste, hein, ça reste, l'alcool est toxique pour le cerveau. Le sucre ? Alors, enfin, le sucre d'une façon générale, enfin, ça dépend quel est l'état, il ne faut pas en consommer comme toujours. Je pense que si vous prenez par exemple du café, moi je préfère le café sans sucre, mais d'une façon générale, c'est sûr que ce n'est pas une bonne chose pour le cerveau, parce que... Enfin, il y a des problèmes, notamment enfin, si on pousse le bouchon jusqu'au problème de diabète, etc. La raison pour laquelle la maladie d'Alzheimer se développe, même si on commence à comprendre de mieux en mieux, il y a quand même des facteurs, je l'évoquais tout à l'heure dans les facteurs de risque, le diabète en fait partie. Donc, il ne faut pas proscrire le sucre pour le proscrire, mais aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'aliments, notamment, je pense, transformés, dans lesquels il y a beaucoup de sucre, bah, ouais, ça aide pas, quoi. Il faut être très clair.
Est-ce que l'alimentation méditerranéenne, a également un impact positif pour les aidants ?
Alors, nous, les thématiques de recherche, on en a plusieurs, mais en termes de neuronutrition, on travaille énormément sur la dépression et le déclin cognitif. La dépression, c'est pareil dans les mêmes études que j'évoquais tout à l'heure, là, notamment études épidémiologiques, il y a clairement un lien entre l'alimentation et la dépression, ça c'est clair et net. Et notamment le régime méditerranéen est un régime qui participe aussi à limiter l'apparition des dépressions. Ça c'est clair et net. Il y a suffisamment de publications et on comprend aussi on commence à comprendre pas mal les mécanismes. Je pense notamment à tout ce qui est problème de neuroinflammation, parce que tous les phytonutriments dont je vous ai parlé, non seulement ont une activité antioxydante, mais souvent, alors pas tous, ont également une activité en tout cas anti-inflammatoire qui est avérée. Et direct ou indirect, notamment en lien avec le microbiote. Il faut savoir que tout un chacun dans la salle, on est, je vais peut-être surprendre un petit peu, mais on est surtout des piquets de moules. Je m'explique, on a plus de bactéries ou de virus en nous, donc avec un ADN extérieur à nous, que de cellules humaines. Donc, gérer l'impact de notre alimentation sur le microbiote est fondamental. On sait que le microbiote évolue avec l'âge. Ça aussi, ce sont des choses qui sont décrites. Il y a une personne tout à l'heure qui évoquait notamment la transplantation fécale. Ce sont des thématiques de recherche sur lesquelles, notamment, je pense à l'INRA de Julien Josas, travaille énormément. Donc voilà, ça, c'est des perspectives aussi qui sont intéressantes.
Oui, monsieur.
Alors, ceux qui suivent le régime méditerranéen. Parce que, comme partout, enfin, dans tous les pays occidentaux, je parle notamment pour l'Europe, il y a eu une modification au cours du temps de l'alimentation. Plus vous scorez, effectivement, avec un régime riche de type, enfin, en fruits et légumes notamment, et de type méditerranéen, plus clairement on voit un lien entre, en tout cas, ce type de maladie et le fait de consommer plus de ce type de produits. C'est statistique, ça ne veut pas dire que si vous pouvez très bien avoir un régime alimentaire qui est super d'un point de vue diététique, ça ne vous empêchera pas, malheureusement, d'avoir à 100%, enfin, vous pourrez quand même être malade. Mais statistiquement, clairement, oui. D'un point de vue politique de santé publique, ce genre d'approche, c'est la moins chère. Il n'y a même pas photo. Je vous parle tout à l'heure de 50%, enfin 40-50%. On évoquait aussi des coûts de traitement qui sont quand même assez onéreux. Il faudra voir demain, et on l'espère tous, bien entendu, qu'on puisse avoir accès à ces médicaments, mais il y a quand même un coût pour la société.
Merci, Monsieur Goudou.
Après.